Radio-Télévision Suisse. RTBF.
Radio France.
Radio-Canada.
Et bonjour à tous, bienvenue à Bruxelles avec la librairie francophone à la Foire du Livre cette semaine. Honneur aux femmes avec un plateau prestigieux aujourd'hui. Nous irons aussi au Parlement européen et dans le sanctuaire de la BD belge. Trois femmes de trois origines couronnées par des prix littéraires sont ici sur ce plateau de la RTBF installé pour l'occasion. L'iranienne Negar Javadi vient de recevoir le prix première. La québécoise vietnamienne Kim Thuy représente ici Montréal, ville invitée d'honneur de la foire. Et la française Adélaïde de Clermont-Tonnerre signe son roman qui a obtenu, lui, le grand prix de l'Académie française. Nous parlerons des femmes dans la littérature et de l'identité avec elles tout à l'heure. Nous irons aussi dans les coulisses du Parlement européen et dans l'hémicycle avec l'écrivain Grégoire Paulet qui invente une nouvelle façon de faire de la politique, un nouveau modèle citoyen. Et si on dépersonnalisait les élections? Une question que nous poserons entretien en déambulation au Parlement installé à Bruxelles. Nous irons au centre belge de la bande dessinée pour célébrer les 60 ans de Gaston Lagaffe avec Frédéric Janin. Et puis dans un instant, nous allons vous raconter une histoire suisse incroyable qui a fait le tour du monde.
La librairie francophone. Émission spéciale, Emmanuel Kérad.
Quatre libraires sont en multiplex à travers la francophonie comme toujours, mais il y a une libraire qui est avec nous ici à Bruxelles sur notre plateau. Bonjour Déborah Damblon.
Bonjour Emmanuel.
Comment allez-vous?
Très bien.
Vous êtes libraire dans la librairie La Licorne. Mm-hmm. Magnifique tenue kaki. Prête à partir au combat.
Nickel. Voilà.
Merci d'être avec nous. En multiplex, Mathieu Colombe, lui, est en France, à Aix-en-Provence, dans sa librairie Goulard. Billy Robinson est au Canada, à Montréal, dans la librairie de Verdun. Et puis Dominique Bressoux représente la Suisse, libraire à Boudry, dans la librairie Une Petite Prose. Bonjour à vous trois.
Bonjour Emmanuel.
Bonjour Emmanuel.
Bonjour Emmanuel.
On vous envoie toute l'énergie positive de cette Foire du Livre de Bruxelles. Vous allez bien sûr nous accompagner à distance tout au long de cette émission.
Bon vol, André. On est de tout cœur avec toi. Fais attention à toi.
C'est tellement beau, c'est tellement inouï d'être dans cet avion, de voler quasiment de manière perpétuelle, que j'en ai les larmes aux yeux.
Et bonjour André Borschberg.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. On commence toujours cette émission par une histoire racontée par l'un de nos invités. Aujourd'hui, une histoire format XL. Vous avez publié avec Bertrand Piccard Objectif Soleil aux éditions Stock. Vous racontez toute l'aventure de Solar Impulse, cet avion de 72 mètres d'envergure qui a fait le tour du monde juste à l'énergie solaire. Avion que vous avez piloté. Entre le 9 mars 2015 et le 26 juillet 2016, vous avez vécu des moments unique, des joies, des frayeurs, des conflits. Quelle est la plus belle histoire que vous pouvez raconter autour de cette aventure?
Alors, ce qu'on a essayé de faire, c'est effectivement de montrer ce que les gens ne connaissent pas. Quand je pense, en fait, au moment le plus extraordinaire, c'était le vol entre le Japon et Hawaï. La première fois que nous étions sur l'océan, où il fallait démontrer que cet avion pouvait voler, qu'on pouvait rester seul dans un cockpit 5 jours, 5 nuits, et que ces technologies fonctionnaient. C'est ce que j'ai fait exactement, et contre l'avis des ingénieurs. Et c'est ça le moment le plus extraordinaire. Finalement, quand je suis parti du Japon, une partie d'un équipement important ne fonctionnait pas. Les ingénieurs m'ont tout de suite dit, André, il faut que tu rentres à la base pour qu'on puisse réparer. Et pour la première fois, la météo s'améliorait. Et Bertrand et moi avons décidé de continuer. Mais c'était un drame. C'était un drame par le fait que certains ingénieurs voulaient démissionner.
Ouais.
Et donc, ça a été plus un problème humain, un problème émotionnel qu'un problème de technologie.
Ce challenge, cette mission s'est préparée des années en avance. Au total, vous y avez passé 13 ans de votre vie. Bertrand Piccard va construire le projet et vous, vous allez construire l'avion. Vous êtes Suisse, tous les deux, et ce qui frappe à la lecture de ce livre, c'est l'esprit de concurrence, la rivalité qui parasite d'ailleurs un peu vos relations. Vous êtes très honnête, vous le racontez tout ça.
C'est ce qu'on a essayé de faire. Alors d'un côté, c'est vrai qu'on a cette concurrence. Finalement, il faut passer par un petit tuyau. Et ce tuyau, c'est un avion qui a une seule place. Et chacun des deux pilotes, bien sûr, préfère les vols les plus passionnants, les premiers vols, les vols les plus mythiques. Mais de l'autre côté, c'est aussi la construction d'un partenariat extraordinaire, parce que seul, on n'aurait jamais pu le faire.
Oui, bien sûr. Lorsque vous êtes au-dessus du Pacifique, André Borschberg, vous pilotez cet avion hors norme pendant 5 jours et 5 nuits. Vous affrontez des turbulences. Et il y avait un moyen de vous éjecter, évidemment, en cas de problème, comme pour un avion de chasse. Sauf qu'au-dessus de la mer, on est seul. Il n'y a pas de recours possible, pas de secours possible.
Non, il n'y a pas de secoupe, il faut effectivement se débrouiller par soi-même. Mais vous savez, c'est ce que vous apprenez si vous rentrez dans l'inconnu, si vous faites un projet que personne n'a fait auparavant. Déjà, il faut accepter cet état de fait. Et puis, il faut développer le mental, l'état d'esprit pour pouvoir accepter tout ce qui vient avec le plus d'ouverture possible. Mmh. Ensuite, c'est vrai qu'il peut se passer beaucoup de choses. Et la meilleure manière de se préparer, c'est de se préparer au pire. Le pire pour nous, c'était de devoir sauter en parachute de nuit, sans rien voir, avec un avion qui était en train de se décomposer, atterrir dans l'eau et ensuite survivre. Mais ça s'entraîne. Et si vous entraînez, finalement, vous apprivoisez d'une certaine manière le pire. Et ce pire ne vous fait plus peur. Vous pouvez le mettre de côté dans votre cerveau et aborder, finalement, cette expérience de manière extraordinairement positive.
Oui, parce que l'avion vole à 9000 mètres d'altitude. Vous expliquez, hein, juste en dessous du couloir des avions de ligne, les longs courriers qui volent à 10 000 mètres. Et 9000 mètres aussi, c'est une façon pour vous de ne pas pressuriser l'appareil et de voler juste avec un masque.
C'est exact. L'énergie était pour la propulsion. On en a très peu. Le matin, finalement, la batterie est rouge comme elle est dans votre téléphone à la fin de la journée. Vous pouvez faire encore un demi-appel. Mais pour nous, en fait, nous avons l'océan en dessous. Pas de prise pour recharger. C'est vrai que c'est un moment difficile.
Donc, vous avez risqué votre vie.
Je n'irai pas de cette manière-là. Non, on a plutôt essayé de faire quelque chose de nouveau, mais en mettant les chances de notre côté. Donc, il ne faut pas nous voir comme des fous
Ah non, je n'ai pas dit ça. Hein. Hein, mais vous risquez votre vie, vous n'êtes pas fou, pas forcément.
Mais finalement, en essayant de démontrer ce qu'on peut faire avec nos technologies. Alors aujourd'hui, on continue toujours dans la même voie et c'est vrai qu'on a beaucoup de possibilités. Et la possibilité que nous avons dû exploiter, c'est ce qu'on appelle l'efficacité énergétique. Comment utiliser au mieux l'énergie pour voler jour et nuit.
Notre libraire belge, Déborah Damblon, a lu ce livre suisse et elle est emballée, Déborah.
Voilà, le suspense est fini. Oui, j'espère que je ne vais pas vous vexer, mais puisque nous sommes en Belgique, ici, sur la foire, je vais me permettre la comparaison. Ce que j'ai aimé dans votre aventure, au-delà de l'exploit scientifique, de l'exploit personnel, de l'exploit humain, c'est le côté bande dessinée de votre démarche. Parce que j'ai lu vos péripéties avec le bonheur enchanté et incrédule que j'avais quand j'étais gamine et que je dévorais mes Tintins et mes Spirou. Et pour moi, vous faites réellement le lien entre les rêves, les livres et la réalité. Alors, bravo les aventuriers.
C'est magnifique, merci beaucoup.
Bel hommage, hein, finalement. On est en Belgique, on parle de bande dessinée, on parlera de Gaston tout à l'heure, dans quelques instants.
Mais la Belgique est importante pour nous. Hein. Nous avons un météorologue belge qui nous a aidés. Sans lui, on n'aurait pas pu le faire. On a un partenaire belge, c'était le premier, le groupe Solvay. Et sans eux, on n'aurait pas pu le faire non plus. Hein. Donc, on est très proche de votre pays.
Merci beaucoup, André Borschberg. Merci infiniment. Vous êtes un vrai aventurier. Objectif Soleil, l'aventure sur la Impulse est paru aux éditions Stock. Merci à vous. On vous emmène à présent dans le sanctuaire de la BD. Le centre belge de la bande dessinée se trouve au cœur de Bruxelles. Nous y sommes allés hier avec le grand auteur Frédéric Janin pour les 60 ans de Gaston Lagaffe.
C'est un endroit vraiment magique qui s'appelle le centre belge de la bande dessinée. Et surtout, le bâtiment est extraordinaire, ce qui est un petit peu embêtant pour la bande dessinée parce qu'on a plus de souvenirs du bâtiment que de tous les petits Mickey qui sont exposés.
Autour de nous, on a des références au Schtroumpf, on a Hergé évidemment derrière, on a le chapeau de Spirou qui domine comme ça.
Oui, il est très très grand, hein. Je crois qu'il doit faire 3 mètres de diamètre à peu près.
La voiture de Boulébile en bas, la statue de Gaston Lagaffe dehors, et puis une immense verrière sous laquelle nous sommes, qui éclaire véritablement ce lieu. Bonjour Frédéric Janin.
Bonjour, très heureux.
Merci d'être avec nous. Gaston Lagaffe fête ses 60 ans. Un album qui compile les meilleures planches de Gaston est paru chez Dupuis. Une intégrale complètement rééditée et restaurée sur le plan de la couleur sort le 7 avril. Vous êtes en charge d'ailleurs de la restauration des couleurs de toute cette œuvre de Franquin. C'est un travail laborieux ça?
C'est un travail énorme, mais quand on aime, on ne compte pas. Et c'est un travail qui a démarré il y a à peu près 10 ans. Quand j'avais 50 ans, parce que j'ai exactement le même âge que Gaston.
Oui, c'est ça, vous êtes né en fin 56.
Oui, oui, oui. Donc,
Gaston en début 57.
Ben oui, mais avec les délais de parution, ça clope. Non, c'est vrai qu'avec Isabelle Franquin et avec les éditions Dupuis, on s'est rendu compte que les couleurs de Gaston n'étaient pas tout à fait à la hauteur, on va dire, techniquement, et puis que les films du trait étaient aussi amochés au fil du temps.
Alors avant de célébrer les 60 ans de Gaston, un mot sur votre travail, Frédéric Jeannin. Vous êtes vous-même un grand auteur de BD, vous avez côtoyé Franquin, mais aussi Gottlieb, qui vous a incité à lancer votre série Germain et nous, série culte des années 80, qui dressait le portrait comme ça d'adolescents, un petit peu barrés. Gaston Lagaffe, comme vos ados, c'est un anti-héros, c'est le roi de la paresse, un gaffeur, mais surtout, c'est aussi un inventeur.
Mais oui, 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 il déploie énormément d'énergie. On dit toujours qu'il est paresseux, mais en fait, quand il se met à inventer quelque chose ou à mettre sur pied une farce, ne fût-ce qu'une farce, ça lui prend beaucoup d'énergie et beaucoup de cœur. Mais il est précurseur d'un tas de choses. Ce qui est très fascinant à voir quand on observe les débuts de Gaston, c'est que je pense que Franquin ne l'a jamais imaginé comme étant un futur modèle pour les lecteurs. D'ailleurs, les éditions Dupuy disaient « Mais qu'est-ce que c'est que ce personnage qui est un anti-héros ? » Normalement, un héros doit avoir des qualités et le petit lecteur doit pouvoir s'identifier. Que fait Franquin à perdre son temps avec ce personnage alors qu'il a de l'or dans les doigts avec Spirou et Fantasio et le Marsupilami ?
Vous pensez qu'il a ouvert la voie à des auteurs comme Gottlieb, comme Brotéché ? On dit souvent que ça a permis un vent de liberté, cet absurde comme ça et ce décalage.
J'en suis persuadé. Ah oui, de toute façon, Gottlieb et Brotéché en ont parlé très souvent. Franquin est un maître pour plusieurs générations, et non seulement graphiquement, mais aussi dans cette idée de prendre les choses avec du recul et de prendre au sérieux l'absurdité de l'existence.
On va monter comme ça sur la mezzanine, ici, Frédéric Jeannin, ici au musée de la BD de Bruxelles, avec les animaux. Alors, il y en a beaucoup des animaux ici, parce que le monde de la BD est peuplé d'animaux. Et Franquin adorait les animaux. C'est pour ça que chez Gaston Lagaffe, il y a le chat, qu'on connaît bien, il y a la mouette, il y a le poisson rouge. Franquin disait, par exemple, que dormir avec un chat, c'était la plénitude absolue. C'était une grande leçon de plénitude.
Je crois que Franquin a eu des animaux chez lui depuis tout petit. Très très vite, il s'est rendu compte qu'il y avait peut-être beaucoup plus de raisons de faire confiance aux animaux qu'aux êtres humains. Et moi, ça me fait penser à un gros cliché peut-être, mais la dernière fois que je l'ai croisé, il m'a dit qu'il était content de partir bientôt parce qu'il en avait marre de voir comment se comportait l'homme. Et donc je pense que son attachement aux animaux, c'est ça aussi, c'est plus proche de la nature que de la méchanceté, la perversion, toutes ces choses-là.
Alors là, dans une vitrine, on a Valérian, on a les Schtroumpfs, et puis il y a cette couverture, cette bande dessinée originale, Gaston numéro 9, le Calagaffe. Ça, c'est culte avec justement la mouette et le chat dans les bras.
Oui, c'est le moment où Gaston, je pense que ça correspond vraiment au moment où Gaston est devenu un héros, même si c'est un anti-héros.
Et hop, ni vu ni connu, et hop, 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 et zou!
Et en Suisse, il y a Dominique Bressoux qui vous encourage à lire Gaston avec un conseil, Dominique.
Oui, alors pour moi, le meilleur album de toute la série, qui est quand même importante, c'est le 13e. La gaffe mérite des baffes. On y voit que Gaston est un gaffeur, certes, mais c'est aussi un auteur d'inventions merveilleuses de poésie, comme la tondeuse qui coupe pas les pâquerettes, ou le moteur de voiture à charbon qui permet de faire des brochettes au pique-nique. Et c'est encore un dresseur de génie, parce qu'apprendre à sa mouette à remettre des sous dans le parc-mètre, c'est quand même génial.
Les tuniques bleues juste derrière, Natacha évidemment, Cédric, Tintin et le Lotus bleu, ils sont tous là.
On est encerclés par l'école de Marcinelle, mais on est à Bruxelles.
Et on est à Bruxelles, c'est normal. Et il y a plein d'expressions dans la bande dessinée, vous le savez mieux que moi, Frédéric Jeannin, parce que chez Germain et nous aussi, il y avait des expressions de gens, comme on dit aujourd'hui.
Les gens de l'époque.
Les
oui,
gens
oui,
de
oui.
l'époque. Et Gaston Lagaffe avait une expression très symbolique, c'est le fameux « m'enfin ».
Le « m'enfin », oui.
Et alors, il y a une explication.
Enfin. J'imagine qu'au départ, c'est « mais enfin ».
Alors, ça interroge tout le public francophone, ça. Mais c'est une expression bruxelloise, paraît-il.
Probablement. C'est un petit peu comme le « rond du jus », qui est difficile à exporter aussi. Le juron, donc c'est, en fait, c'est nom de Dieu, mais dit avec colère et avec rage, plutôt aux environs de Bruxelles. « Rond du jus !»
Alors, Franquin se débrouille avec ça, cette expression-là, parce qu'il ne peut pas écrire « nom de Dieu », sinon il est censuré.
Absolument.
Alors, il imagine comme ça cette formule.
Il y a eu une censure, en fait, officielle, c'est le groupe rock de Gaston, quand il fait s'écrouler l'immeuble pour le 600e gag de Gaston. Il joue avec son groupe, et le groupe, au départ, s'appelle les Moon Module Mech. Mais figurez-vous qu'à l'époque, l'éditeur a trouvé que « mec », c'était un mot un petit peu vulgaire, et donc ils ont censuré le « mec ». Donc dans le journal, ça s'appelait les « Moon Modules » tout court, et puis après, ça s'est quand même rattrapé dans les albums.
On est au milieu des Schtroumpfs, tiens, ouais, on arrive chez voilà, Peyo, avec cette signature emblématique de Peyo. Une autre signature emblématique, évidemment, c'est celle de Franquin.
Il y avait notamment une énorme amitié entre Franquin et Peyo. Le départ des Schtroumpfs, c'est Franquin et Peyo. Peyo et Franquin.
La signature de Peyo que l'on voit ici, la signature de Franquin au bas de chaque planche de Gaston Lagaffe qui est animée. Ça, c'est assez étonnant parce que le dessin, il va jusqu'au bout, Franquin. Quand il signe les planches de Gaston Lagaffe, il y a une signature qui correspond à l'histoire que l'on vient de lire.
Et c'est un signe de l'extrême générosité de Franquin. Franquin voulait donner plus et donner plus, pas que les gens en aient pour leur argent, parce que Franquin s'en foutait un peu de l'argent, mais il y a une extrême générosité. Et on la voit non seulement dans les signatures, mais aussi dans n'importe quel petit détail d'une case de Gaston. Je crois aussi que, il y a une phrase très comique de Yvan Delporte, c'est que Franquin sait qu'il dessine mal. Et donc il y avait ce total manque de confiance. Non seulement son dessin n'était pas à la hauteur par rapport à ce qu'il avait en tête, mais en plus il n'était pas du tout rassuré sur la qualité des gags. Et du coup, il en mettait encore tout autour. Et on peut lire, relire, re-relire, et on trouve toujours des nouvelles choses dans son travail.
Merci beaucoup Frédéric Janin.
Quel bavard je fais.
Vous êtes très bavard, vous êtes sous un énorme schtroumpf là, qui est juste au-dessus de vous.
Ah,
faites
oui.
Attention, il vous surveille. Merci beaucoup. La Nive de Lagaffe est parue chez Dupuis. À noter le formidable travail de restauration des couleurs et de réédition de tous les albums de Gaston dans une intégrale à paraître le 7 avril, toujours chez Dupuis. Et l'intégrale de Germain Hainou est parue en format compact, un livre sublime. Très réussi, c'est chez Dupuis, et c'est de vous tout seul.
Ça me fait très plaisir ce que vous dites là. Pas tout seul, hein, je l'ai fait avec Thierry Culliford.
Oui, Thierry Culliford.
Parce qu'on est chez Peyo, là.
Le fils.
C'est son fils.
Le fils de Peyo.
Oui.
Merci beaucoup Frédéric. On va quitter ce magnifique musée de la BD pour aller au cœur de la Foire du Livre de Bruxelles, en public avec un plateau de femmes à présent. Honneur aux femmes, avec l'Iranienne Negar Javadi, la Québécoise vietnamienne Kim Thuy et la Française Adélaïde de Clermont-Tonnerre. Avant cela, voici le groupe Akale Wubé avec le chanteur éthiopien Girma Beyene dans la librairie francophone spéciale Bruxelles aujourd'hui.
وزرت إثيوبيا من تتبك يا ليش في السوم إثيوبيا ويت أنا ما دي ماما وزرت إثيوبيا كونجيت إني نيمبا ترامج ودفيت وجيبا دباباي Nika we malin Anchin bakuf we miay
We'll be right back.
Akale Wobe et Girma Beyene avec Enken Yelelen Besh sur votre radio francophone.
La librairie francophone, une émission coproduite par les médias francophones publics.
RTS la première.
RTBF la première.
Ici Radio-Canada première.
France Inter.
Kim, tu commences à danser sur les jingles. Bonjour Kim.
Oui, c'est vraiment
vous êtes
bon,
magnifique,
en fait.
Vous faites l'ambiance ici à la Foire du Livre en public. Toutes les semaines, nous vous emmenons dans la plus grande librairie du monde avec des libraires qui vous présentent leur coup de gueule et leur coup de cœur. On commence avec Mathieu Colombe en France. C'est un gros coup de cœur, paraît-il, Mathieu.
Oui, 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 j'étais très étonné par ce petit livre qui s'appelle Autoportrait Remake de Gaspard Delanoë, qui est un remake de l'autoportrait d'Édouard Levé, qui est sorti il y a une dizaine d'années, donc c'est un peu pour fêter son anniversaire. Et surtout, le personnage qui est décrit, qui n'est autre que l'auteur, fatalement, il y a une jouissance, on se régale. Je l'ai lu en une seule traite, c'est fantastique, il faut que tout le monde le lise.
Très bien, Autoportrait Remake aux éditions Plein Jour. Merci Mathieu. Déborah Damblon, pour la Belgique, coup de gueule ou coup de cœur?
En public, Emmanuel, un coup de gueule, évidemment.
J'allais dire un coup de cœur, mais bon,
ah bah non.
Allez-y,
ah bah,
mettez l'ambiance.
Voilà. Moi, je suis gentille, mais pas tout le temps. Eh ben, on est dans un salon. Regardez les tables autour de vous. Il y en a partout. Elles sont pleines de romans pour adolescents. Il y en a partout. Il y en a de plus en plus. Ouais. Il y en a de plus en plus dans nos librairies. Moi, c'est un créneau que j'adore. Il y a des auteurs fabuleux. Et dans la presse et les médias, on n'en parle jamais.
Quand même, si, on en parle de la littérature jeunesse.
Pas beaucoup.
Ouais, les
jeunesse,
ados.
Mais
oui.
Pas les ados.
Ouais, c'est vrai, les romans pour
moi,
adolescents,
c'est les romans,
etc.
Pour ados que je veux.
Il y a plein de choses, il n'y a pas que Harry Potter.
Voilà. Voilà. Il y a des auteurs fabuleux à défendre.
Très bien, merci Déborah.
La librairie francophone, émission spéciale, Emmanuel Kérad.
Et ici, à cette Foire du Livre de Bruxelles, nous recevons trois femmes, trois grandes écrivaines couronnées chacune pour un prix important. Honneur aux femmes, donc, dans la librairie francophone en cette semaine de la Journée internationale de la femme. Bonjour Négard Javadi.
Bonjour.
Vous venez de recevoir ici le prix Première pour votre roman Désoriental, roman dont nous avions parlé avec vous à la rentrée. On avait parié d'ailleurs sur un grand succès. C'est le cas. Les lecteurs vous plébiscitent et ce prix confirme, s'il le fallait, votre révélation. Dans ce premier roman sur l'Iran, votre pays, la mémoire, l'identité, les femmes occupent une place importante.
Absolument, donc c'est mon pays, oui et non, parce que c'est un pays où je ne retourne plus et c'est un pays perdu, c'est mon arrière-pays, comme je le dis dans le livre de la ouais. grand-mère qui dit « c'est mon arrière-pays ». Comme on le dirait d'une arrière-grand-mère. Donc, en effet, il y a question d'identité, de mémoire surtout. C'est même un livre sur la mémoire parce que c'est écrit d'une façon particulière avec une sorte de puzzle, un livre qui parle de l'Iran, de la France et de comment se retrouver au milieu de tout ça.
Voilà, avec une femme, un personnage incroyable, Kimia, qui est une femme partagée entre deux cultures, avec une identité sexuelle très difficile à porter pour elle. Être lesbienne en Iran, c'est intolérable.
Être lesbienne, être homo en Iran, garçon ou fille, c'est même plus qu'intolérable, c'est un tabou insensé. On n'en parle jamais, on n'en parlait pas déjà et on en parle encore moins aujourd'hui. Être transsexuel, en revanche, ça se pratique oui, très, très oui. souvent et c'est le paradoxe de ce pays. C'est que l'individu n'existe pas en Iran, donc on fait partie d'un clan. Et donc c'est pour ça que la transsexualité existe, parce que il faut être un homme ou une femme. On ne peut pas être l'entre-deux. On ne sait pas faire avec l'individu qui se manifeste en tant qu'individu en Iran. Et ça, c'est un grand tabou.
Et les femmes doivent porter hein, certaines choses. La famille aussi, leur condition, la condition féminine, c'est très compliqué. Vous l'expliquez très bien dans ce roman dont on avait parlé, je le rappelle, dans l'émission. Kim Thuy est aussi avec nous. Vous la connaissez, je suppose, Négard Javadi, vous l'avez rencontrée ici.
D'autant qu'elle est chez Liana Levy.
Elle est voilà, chez le même éditeur que vous. C'est son grand retour dans la librairie francophone, Kim. La ville de Montréal est l'invité d'honneur de cette Foire du Livre. Quel succès au Québec pour vous. Vous avez eu le prix du gouverneur général. Vie, qui est sortie aux éditions Libre Expression, n'est que votre troisième roman. Là aussi, l'identité occupe une place importante. Dans ce nouveau livre, les femmes du Vietnam ont souvent pris les choses en main quand il a fallu quitter le pays.
Oui, oui, oui. Beaucoup de femmes. Je ne sais pas pourquoi, hein, finalement, dans nos aux arrière-pays, probablement. Dans ce cas-ci, c'est ça, je retourne, en fait, pour redécouvrir cet arrière-pays. Mm-hmm. Un pays perdu. Hein.
Qu'on a délaissé ou pas?
Qu'on a délaissé, certainement, oui. Ouais. Ouais. Volontairement ou pas volontairement, parce qu'il y en a
oui,
qui...
Oui, contraint et forcé, souvent.
Ouais. Ouais.
Et ces femmes, c'est vrai, dans votre livre, elles sont enfermées déjà dans un devoir conjugal, ouais. devoir familial. L'honneur est en jeu et les traditions entrave ces inégalités hommes-femmes.
Oui, mais en même temps, je veux exposer aussi le côté silencieux du pouvoir des femmes. Le pouvoir féminin est très silencieux au Vietnam, mais en fait, elles sont très, très fortes. Et donc, il faut se méfier des Asiatiques, des Vietnamiennes. Elles oui. sont les plus sournoises.
Vous êtes sournoise vous-même.
Ah oui, tout à fait.
C'est vrai.
Non, en fait, j'ai eu la chance de retourner au Vietnam et c'est là où j'ai appris que, voilà, comme par exemple ma cousine qui prépare les valises comme ça pour son mari, et j'ai dit, mais pourquoi tu le fais? Pourquoi il le fait pas lui-même ou sinon la bonne qui pouvait le faire pour lui? Et elle a dit, ben non, comme ça, quand il va mettre la valise et qu'il laisse une autre femme déboutonner la chemise, il va penser deux fois parce que ma main est sur la chemise.
C'est une façon, oui, de garder voilà. Le mari fidèle. Votre personnage, Vi, est une jeune femme qui culpabilise quand elle tombe amoureuse. Et pire encore, quand elle s'offre à un homme. Ouais. C'est comme si on jetait comme ça la honte sur la famille.
Tout à fait.
Elles ne sont pas libres.
Non, parce qu'on est déchiré en fait au départ hein, quand on est la première génération qui arrive. Voilà, il y a de la déchirure entre les deux cultures. Est-ce qu'on suit la culture en héritage des parents ou est-ce qu'on s'adapte à la nouvelle culture? Et évidemment, il y a cette déchirure là. Il y a le désir et puis le désir non exprimé et puis le désir auquel on a droit en fait.
Vous écrivez « Mon comportement avait détruit la réputation de deux familles parfaitement respectables ». Oui. Ça, suite à une aventure qu'elle a avec un homme, en tout cas.
Je pense elle est que amoureuse j'ai détruit...
Non, enfin, c'est pas vous, là, c'est le personnage.
Non, ça me fait penser à moi. Je me dis,
ah, ça fait penser à vous,
oui. Oui, oui, oui. Je crois que j'ai détruit aussi les rêves de ma mère.
C'est vrai?
Ben, ouais. Oui, oui, oui. C'est sûr que pour elle, elle aurait aimé que je sois une femme vietnamienne telle qu'elle connaissait, son modèle à elle. Ouais. Mais arriver dans une société québécoise ou canadienne, c'est impossible, en fait.
C'est compliqué, oui.
Ouais, voilà.
Donc, bon, vous êtes heureuse?
Ah, tout à fait. Peut-être trop. Hein.
Peut-être trop. Il y a Adélaïde de Clermont-Tonnerre qui est sur le plateau de cette Foire du Livre de Bruxelles. Bonjour Adélaïde.
Bonjour.
Je suis ravie de vous accueillir. C'est la première fois pour vous dans la librairie francophone.
Très heureuse aussi.
Félicitations, vous avez obtenu le grand prix du roman de l'Académie française avec Le Dernier des Nôtres, paru chez Grasset. Vous êtes aujourd'hui l'une des femmes écrivains francophones qui comptent dans le monde littéraire. N'est-il pas paradoxalement misogyne de parler d'une littérature féminine? Vous en pensez quoi, vous?
Oui, moi je trouve ça, enfin misogyne, je sais pas, en tout cas daté, parce que déjà Virginia Woolf en parlait, elle disait que le stylo ne doit pas avoir de sexe. Et je crois que c'est vrai, et c'est peut-être aussi à cause de tous ces poncifs qu'on entend que moi, dans mon livre, je me suis glissée dans la peau d'un homme.
Oui,
parce que
oui.
Ah, on a tous une part de masculin, oui. Une part de féminin, et puis quelle femme n'a pas eu envie de savoir ce que c'est que le corps d'un homme, ce qui motive un homme, ce que vous avez dans le cœur, ce que vous avez dans le cerveau, ce que vous avez ailleurs. Et moi, j'ai essayé de le faire dans ce livre-là.
Avec un bel homme, Werner, qui est sublime. C'est votre fantasme, Werner.
Ouais, je suis un peu dingue de lui, c'est vrai. Je le reconnais.
Il fait tomber toutes les femmes, cet homme-là. Ça commence comme ça, d'ailleurs. Hein, le premier chapitre, c'est ça, quasiment.
Oui, il a des défauts. Hein. Mmh. Il a des défauts. Oui. Il est colérique, il est torturé, il est inconstant, il n'est pas très sentimental. Mais c'est un tout jeune homme. Et il a un peu cette arrogance de la jeunesse qu'on a tous eu à un moment, à savoir qu'on croit jeune, qu'on a tout lu, tout vu, tout bu. Mmh. Et la vie se charge très rapidement de vous expliquer que vous n'avez rien lu, rien vu, rien bu. Mmh. Et qu'il va falloir réviser à peu près tout. Vos idées préconçues, c'est ce qui va lui arriver.
Ça dépend, il y en a qui restent dans cet esprit. Hein.
Oui, alors on ne les voit plus du coup.
Bon, on va parler justement, il y a des femmes très fortes hein, dans votre roman, on va en parler dans un instant. Il y a Déborah Damblon qui est en plateau avec nous, qui représente donc la Belgique ici à la Foire du Livre de Bruxelles. Est-ce un argument de vente de dire qu'un livre est écrit par une femme, Déborah?
Auprès de certaines femmes, oui.
Ah oui.
Oui, vraiment, vraiment. Moi, j'ai des lectrices militantes qui vont pratiquement regarder que les romans féminins. Alors, peut-être parce qu'il faut plus de courage pour être une femme, et donc plus de courage pour écrire, plus de courage pour se mettre en avant. Et donc, elles vont souvent plus loin. Et oui, je pense que c'est un argument. Et moi, je suis assez contente parce que auprès de certains hommes, ça commence à l'être aussi. Et c'est vraiment un plaisir que ça devienne une identité.
Kim Thuy, ça vous dérange, ça, d'être dans la catégorie littérature féminine francophone?
Ah, j'assume complètement. Ouais. Oui, oui. Et je crois que les femmes, probablement, sont les porteuses des connaissances, de l'héritage et tout ça. Donc, je crois qu'on doit compter sur les femmes pour la suite des choses.
Bon, votre roman, Adélaïde, est aussi un roman sur l'identité. Hein. C'est le point commun que vous avez, hein, toutes les trois, Negar Djavadi, Kim Thuy, Adélaïde de Clermont-Tonnerre. L'identité dans Le Dernier des Nôtres qui part d'une histoire d'amour entre Werner, le belâtre, et Rebecca qui vont devoir surmonter et surtout dévoiler des secrets de famille pour pouvoir s'aimer. Les femmes sont dans cette histoire déterminées, victimes mais battantes.
C'est vrai qu'elles sont victimes, et surtout elles sont victimes de génération en génération. C'est ça que j'ai aussi voulu montrer, c'est-à-dire qu'une femme victime, eh bien, l'écho va se poursuivre sur des décennies et sur des générations. Et ma Rebecca, elle fuit dans la création, elle fuit en escaladant les façades des immeubles, elle fuit en disparaissant. Et un jour, il va falloir qu'elle se retourne, qu'elle fasse face à la réalité et qu'elle l'affronte. Et c'était une partie de mon histoire, c'est vrai.
Et puis, dans l'histoire, finalement, avec un grand H, je dirais, les hommes ont toujours sous-estimé le pouvoir des femmes. C'est une belle démonstration, votre roman, d'ailleurs, Adélaïde.
Oui, et alors surtout, moi, je ne les oppose pas, les hommes et les femmes. C'est-à-dire que j'essaye de les unir dans ce combat. Mais c'est vrai qu'il y a une partie qui se passe en 45. Il y a un personnage aussi qui s'appelle Marthe. Marthe, elle essaye de tracer son chemin à une époque où il n'y a pas de place pour les femmes, où les femmes sont censées effectivement rester chez elles, tout accepter de leur mari. Et j'ai une immense reconnaissance, moi, pour ces générations qui nous ont précédées. C'est-à-dire qu'on est loin d'avoir gagné le combat, que ce soit en Europe et que ce soit évidemment encore plus dans d'autres pays du monde. Mais mon Dieu, tout ce qu'on leur doit, tout ce qu'on leur doit et le remerciement infini et la gratitude que j'éprouve pour ces femmes qui ont été enfermées, qui se sont battues pour qu'on puisse être les femmes que nous sommes aujourd'hui.
Kim Thuy, les femmes ont cette particularité en littérature de révéler ce pouvoir féminin, d'explorer aussi avec beaucoup de finesse la question de l'identité. C'est presque un réflexe maternel, non ? C'est aussi simple que ça ?
Oui, oui, et aussi probablement parce que le Vietnam était en guerre pendant tellement longtemps que beaucoup d'hommes étaient partis à la guerre. Et je crois que ce pays, s'il n'y avait pas de femmes, il aurait disparu déjà. Et donc les femmes ont tenu autant la tristesse que la victoire de toutes ces guerres-là. Alors j'ai essayé avec vie, en fait, mon idée c'était d'écrire sur les hommes, que j'adore, mais que finalement j'ai pas réussi, c'était encore des femmes qui sont venues. Oui.
Ouais. Souvent chez vous, c'est
oui,
ça.
Oui. Ouais.
Negar Javadi, dans certains pays, il est vrai que la littérature dite féminine joue un rôle social, un rôle politique même. C'est le cas au Nigeria par exemple, en Algérie bien sûr, en Iran également.
Oui, en Iran, en fait, ce qui est assez incroyable, c'est que en Iran, la poésie fait partie de la vie des Iraniens. Alors, il y a des grands poètes qu'on connaît, les Hafez, Rumi, Khayyam, je le prononce à l'iranienne, Khayyam, Omar Khayyam, donc. Et donc, voilà, la poésie a toujours été une affaire d'hommes. Et peu à peu, ce sont les femmes qui sont emparées de la littérature. Parce qu'en Iran, il n'y avait pas une grande littérature. C'est un pays de poésie, mais pas de littérature. Et au XXe siècle, les femmes se sont emparées de la littérature. Et en fait, la littérature aujourd'hui, c'est une affaire de femmes en Iran.
Et une affaire sociale, politique.
Et une affaire sociale et politique.
Vous êtes
à travers
un exemple, d'ailleurs.
Oui, moi, un peu moins, mais parce que moi, je ne suis pas là-bas. Et donc, je n'ai pas à me battre contre une censure.
Bien sûr,
mais ce sont les femmes, en effet, qui essayent, à travers leurs livres, de parler de la condition des femmes en Iran. Elles le font très bien, d'ailleurs.
Très bien, merci beaucoup, merci à vous trois, bonne foire du livre. Vie de Kim Thuy est paru chez Libre Expression. Adélaïde de Clermont-Tonnerre, le dernier des nôtres, c'est chez Grasset. Félicitations pour
merci
vos prix respectifs. Negar Javadi, prix première, votre entretien intégral dans la librairie francophone avec une lecture d'Alain Chamfort, vous vous souvenez de ça?
Très bien, et comment?
Extrait donc de ce premier roman est à retrouver en podcast sur le site internet de votre radio francophone. Merci mesdames. Quel beau plateau! Je resterai bien là, moi. Vous aussi, mais restez dans cette plus grande librairie du monde. On part en Suisse avec Dominique Bressoux. Coup de gueule ou coup de cœur, Dominique?
Coup de gueule sur les modes dans l'édition. Parce que comme libraire, franchement, on guette chaque année quelle idée va passer par la tête de certains éditeurs. Idée qui va nous amener par carton entier des livres dont le contenu est franchement désolant. Accompagné de gadgets particulièrement débiles. Il y a eu la mode de l'art-thérapie à base de mandala, la mode des chats à toutes les sauces, un petit passage par l'art du rangement. Et cette année, on s'oriente vers le simplissime. Et c'est au point où on se demande pourquoi on se prend la tête. Parce qu'il y a des auteurs très malins qui ont manifestement toutes les solutions.
Oui, bon, voilà, c'est du commerce aussi, Dominique, vous savez ça. La mode,
voilà.
C'est commercial. Au Canada, c'est Billy Robinson. Son cœur a fait boum sur un recueil de nouvelles, Billy.
Oui, en effet, et c'est un double coup de cœur parce que vous savez que j'aime beaucoup la foire du livre de Bruxelles. Alors,
et vous étiez là l'année dernière, je me souviens.
Oui, oui. Et puisque la ville de Montréal est à l'honneur, j'ai pensé au dernier livre du grand gagnant du prix du livre de Montréal, donc Le Palais de fatigue de Michael DeLisle chez Boréal. C'est un recueil de nouvelles, mais ça se lit comme un roman. C'est des histoires sous le thème de la séduction, du désir et de la finalité là, dans toute chose. Et j'ai été ému encore une fois là, par ce bel opus là, tout aussi puissant et réussi.
Le Palais de la fatigue aux éditions Boréal, les éditions Boréal qui sont représentées ici à Bruxelles. Merci Billy.
Merci à vous.
La librairie francophone à Bruxelles, à l'occasion de la Foire du Livre, on vous emmène dans les coulisses du Parlement européen. Dans quelques minutes, l'écrivain belge Grégoire Paulet, qui publie son nouveau roman Tous chez Gallimard, est avec nous. Nous allons faire pour la première fois un entretien au siège du Parlement européen. Et vous allez voir, le sujet de son livre colle parfaitement au décor. Et voici le tube francophone de la semaine, interprété par le Suisse Stéphane Escher. Vous devez normalement tous reconnaître cette chanson culte du début des années 90.
J'abandonne sur une chaise les chounelles du matin. Les nouvelles sont mauvaises, d'où qu'elles viennent. J'attends qu'elles se réveillent et qu'elles se lèvent enfin. Je souffle sur les braises pour qu'elles prennent. Cette fois, je ne lui annoncerai pas la dernière. Et qu'attendre, je garderai pour moi ce que m'inspire le monde. Elle m'a dit qu'elle voulait, si je le permettais, déjeuner en paix. Déjeuner en paix. Je vais à la fenêtre et le ciel ce matin. Est-ce que tout va si mal? Est-ce que rien ne va bien? L'homme est un animal, me dit-elle. Elle prend son café en riant. Elle me regarde à peine. Plus rien ne la surprend sur la nature humaine. C'est pourquoi elle voudrait, enfin si je le permets, déjeuner en paix. Déjeuner en paix. Qu'il va neiger, me demande-t-elle soudain. Me feras-tu un bébé pour Noël? Elle prend son café en riant. Elle me regarde à peine. Plus rien ne la surprend sous la nature humaine. C'est pourquoi elle voudrait, enfin si je le permets.
Stéphane Escher avec Déjeuner en paix sur ICI Radio-Canada Première, RTBF la première de la RTS et sur France Inter.
La librairie francophone, émission spéciale, Emmanuel Quérade.
Voilà, on est arrivé au Parlement européen avec Grégoire Paulet et puis nous sommes sur un espace multimédia, un grand plateau de télévision. Avec des écrans partout autour de nous, aux couleurs de l'Europe évidemment, un studio d'enregistrement radio, internet et ce plateau télé. Nous sommes au centre. Bonjour Grégoire Paulet.
Bonjour Emmanuel.
Merci beaucoup d'être avec nous au Parlement. Qu'est-ce que vous ressentez ici ?
Moi, j'ai toujours l'impression que le Parlement, c'est vraiment l'endroit du citoyen. Il n'y a rien à faire. C'est le seul endroit où le pouvoir citoyen commence directement. Après, ça devient plus opaque. Au Parlement, on y a accès comme ça. D'ailleurs, il y a plein de gens autour de nous qui ne sont pas du tout des députés, plein de gens de... Voilà, on dirait presque un hall de gare, et je trouve ça très bien.
Alors, c'est très sécurisé. On a eu beaucoup d'accréditations à remplir avant de venir ici. Mais effectivement, c'est un lieu d'échange, un lieu de rencontre assez spontané, assez convivial, paradoxalement.
Ça, je ne sais pas très bien si c'est l'effet Bruxelles. Vous savez, Bruxelles et la Belgique, c'est pas très fort pour se prendre très au sérieux. Et pour le côté majestueux, solennel, on n'est pas très bon. Alors, ça a un autre côté qui est pas mal. C'est qu'effectivement, du coup, ça devient vite convivial.
Alors, dans votre nouveau roman qui sort chez Gallimard, dans la collection Blanche, vous imaginez un nouveau modèle politique belge et français généré par des citoyens indignés qui s'appuient en fin de compte sur l'Union européenne. C'est un déni de démocratie de délaisser le Parlement européen ?
Oui, certainement. Je pense que quand on regarde l'histoire de l'Union européenne, le Parlement a commencé avec très peu de pouvoir et il en a pris de plus en plus. Ce pourquoi l'Europe n'est pas assez démocratique, c'est parce qu'elle délaisse le pouvoir de son Parlement. Alors que c'est au Parlement, véritablement, que se joue l'Europe comme un peuple, les citoyens d'abord. C'est sûr que c'est un déni de démocratie que d'en faire une sous-institution.
Mais évidemment, quand on parle des accords commerciaux, je pense aux accords commerciaux avec l'Amérique, le Canada, les États-Unis. On dit beaucoup de choses là-dessus. Est-ce qu'ils sont vraiment à la faveur des citoyens ?
Et ça, justement, si jamais le Parlement avait plus de pouvoir... Si, autrement dit, si jamais les États exigeaient ça, parce que qui pourra décider ça ? C'est les États, d'accord ? C'est au Conseil. Ces accords internationaux, ils se font où ça ? Ils se font au Conseil, d'accord ? Ce sont donc les gouvernements nationaux qui, dans le secret du Conseil, décident de lancer ce genre d'immense projet. Après ça, on accuse l'Europe de l'avoir fait, alors que ce sont les gouvernements nationaux qui l'ont fait dans le Conseil. Si jamais le Parlement était souverain sur ces questions-là aussi, je vous assure que le projet du TTIP, par exemple, aurait eu beaucoup plus de difficultés à passer tel quel, parce que le Parlement est par définition un organe non opaque, alors que le Conseil est par définition un organe opaque. Donc là, il y a toute une sorte d'hypocrisie qui rend évidente l'intérêt des citoyens à ce que le Parlement ait son mot à dire partout.
On va descendre de ce plateau de télévision, Grégoire Paulet, immense plateau, on est entouré de caméras et de projecteurs ici pour se diriger vers, attention la marche, à cet espace radio là très éclairé avec des projecteurs aussi très puissants. Venez par là. Une sorte de mini hémicycle avant d'aller dans la grande, on va aller dans la grande hémicycle dans un instant. Grégoire, on reproche tant de choses à l'Union européenne, pourtant dans votre roman cela semble être le seul socle possible à une évolution radicale de la politique, une politique participative qui représente vraiment les citoyens. C'est ça le projet de vos personnages. Expliquez-nous.
Bon, alors, reprenons au début. Moi, dans mon roman, je pars d'un constat, le divorce entre le peuple et le monde politique, qui est un grand danger pour la démocratie, puisque c'est la porte ouverte au populisme. Je pars de ce constat-là, et puis après, quand j'écris un roman, qu'est-ce que je fais ? J'imagine. Je reprends les 4 dernières années, ou les quelques dernières années, et j'imagine ce que tout ce mécontentement, toute cette frustration, mais aussi ce désir citoyen d'une nouvelle démocratie aurait pu donner. Ça a donné les indignés, ça a donné Occupy Wall Street. Mais dans mon roman, j'imagine que ces mouvements-là vont beaucoup plus loin, sont emportés, en fait, dans une prise de conscience citoyenne, non idéologique, pas des petits groupes, mais hyper démocratique et hyper transversale, dans un mouvement qui, alors, décide de s'appeler TOUS, T-O-U-S, en France, et EO, en Belgique. On est vraiment dans la politique fiction, là, bien sûr. Et ce mouvement, 100% citoyen, commence à progressivement balayer tout l'appareil politique, tout l'appareil particratique, disons, ancien, et par instaurer, en France, la 6e République, en Belgique, une démocratie participative d'un type nouveau, où tout à coup, les gens ont repris goût, en fait, à l'avenir, ont repris goût à construire, se considèrent de nouveau comme des acteurs et des auteurs de l'histoire. Alors, bien sûr, c'est une utopie, ça a quelque chose qui est un petit peu violent, parce que c'est l'histoire d'une révolution.
Oui, c'est ça.
Mais une révolution 100% pacifique.
Une révolution tranquille.
Une révolution
tranquille. Ça rappelle des choses, ça, Grégoire.
Ça rappelle des choses, mais bien sûr.
Partout dans la francophonie.
Bien sûr. Et puis, c'est aussi la notion de printemps, n'est-ce pas ? Le printemps est un produit de l'homme, comme dit le poète grec Elitis. Donc, effectivement, c'est une révolution tranquille parce que le fin fond de la démocratie, c'est de dire toute majorité importante a le droit de proposer la direction de la société. Et ça, c'est décisif, c'est quelque chose qu'on a oublié. On a délégué son pouvoir. La démocratie, ce n'est pas déléguer son pouvoir. La démocratie, c'est l'exercer.
Et donc les citoyens reprennent le pouvoir.
Voilà, dans ce roman, d'accord, les citoyens reprennent le pouvoir.
Alors, on va voir si les citoyens peuvent aller dans l'hémicycle. En tout cas, nous, on va y aller. On va imaginer ça, cette politique fiction. Allons-y, on va traverser une partie du Parlement européen ici à Bruxelles. Vous écoutez la librairie francophone avec Grégoire Paulet pour cette émission spéciale Bruxelles ici au Parlement européen pour la première fois dans l'histoire de l'émission. Il y a des plateaux situations partout. Les plateaux situations, ce sont des plateaux de télévision. On installe une caméra, un écran, un projecteur et puis les journalistes font leurs interventions comme ça. On a des plateaux situations donc un peu partout ici dans cet espace. Alors, on va passer dans les coulisses du Parlement européen. Alors ça, c'est assez unique. On a heureusement les autorisations pour. On va prendre un escalier de service que personne ne voit, voilà, qui est juste là, tout petit. Allez-y, Grégoire.
Tout de suite, il n'y a plus la moquette.
Voilà, il n'y a plus de moquette. C'est tout gris. On a des tubes d'aluminium qui servent de rampe et puis un escalier avec quand même des antidérapants. Alors, on va monter à l'hémicycle et on va aller dans la tribune de l'hémicycle, ici au Parlement européen à Bruxelles. Voilà, on arrive avec cette porte automatique. Ouais. Voilà, donc tous les pupitres. Hein.
On se croirait un peu dans une soucoupe volante quand même, non ? C'est un peu Star Trek.
C'est exactement ça, c'est exactement ça. Il y a des libraires, Grégoire Paulet, qui ont lu votre livre, évidemment, et Billy Robinson est au Canada. Comment avez-vous perçu ce roman très européen depuis Montréal, Billy ?
Oui, écoutez, Paulet écrit les attentes et les espoirs là, des mouvements de protestation qui grondent en Europe et qui peuvent avoir une certaine résonance, là, même ici au Québec, et soit la recherche d'un idéal politique et, peut-être encore plus important, se faire entendre. Alors, il nous émeut et en nous permettant d'associer des visages réalistes et il nous ramène là, ces mouvements à hauteur d'homme.
À hauteur d'homme, c'est exactement le résumé de ce livre, Grégoire Paulet. Mathieu Colombe, également en France, une lecture passionnée pour vous, je crois.
Oui, oui, parce que j'ai aimé cette politique fiction. Elle porte à réfléchir d'abord sur le bien qu'on pourrait accomplir, cette potentialité qu'offrent certains mouvements qui se veulent hors des sentiers battus. Et ensuite, et c'est tout le sel de cet ouvrage, il nous est rappelé que dans politique fiction, il y a politique. Et que même dans l'imaginaire, elle pourrit tout ce qu'elle touche. C'est à méditer.
Bon, alors c'est vrai, Grégoire, vous montrez par vos personnages, par les partis politiques qui ont peur de la contestation citoyenne, que nous devrions dépersonnaliser l'action politique. Un homme seul, un homme qui incarne le pouvoir, c'est inadapté aujourd'hui, c'est irresponsable.
La démocratie, elle doit suivre aussi l'évolution de la société. Nous sommes dans une société beaucoup plus interconnectée, beaucoup plus horizontale qu'avant. On ne peut plus avoir des systèmes politiques verticaux. La campagne présidentielle française le rappelle, le système présidentiel français est une des premières choses que, dans mon roman, les citoyens décident de supprimer. Il faut passer à quelque chose de beaucoup plus horizontal. Le leadership incarné par une personne, c'est ce que le populisme remet à la mode et c'est quelque chose qui devrait appartenir au passé.
Dans ce roman Fleuve, il y a aussi quelques idées intéressantes, Grégoire Paulet. On a même l'impression que vous avez vraiment réfléchi à monter un mouvement politique. Par exemple, il y a une idée qui pourrait supprimer les impôts pour tout le monde. Votre mouvement, tous, imagine une taxe de 0,2% sur les transactions électroniques. Qui paye ce pourcentage ?
Ah ben bien sûr, c'est celui qui achète.
Donc, c'est le consommateur.
C'est le consommateur. Pas ouais. Seulement le consommateur, mais aussi le banquier quand le banquier achète des devises, mais aussi l'industriel quand il achète sa matière première. Et donc, à tous les niveaux, mais ça c'est une idée qui a été développée par l'Université de Zurich, ils ont fait des calculs pour la Suisse. Si 0,2% sont prélevés sur tous les paiements électroniques, pas seulement vous avec votre carte de banque à la boulangerie ou au magasin de vêtements, mais aussi l'industriel quand il achète son acier en Inde, si tout ça est, on fait un prélèvement de 0,2, c'est-à-dire que ça ne va pas peser très lourd, ça remplace carrément l'impôt sur le revenu.
Ça, c'est possible vraiment. Mais alors, pourquoi personne n'a cette idée-là ? Parce que du coup, c'est facile, pour le coup. Alors, c'est populaire.
Mais bien sûr, c'est une idée fantastique. Et d'ailleurs, dans le roman, on la met en application. Et dans le roman, on explique pourquoi aussi elle est difficile à mettre en application. Parce que l'inertie des gouvernants est très, très grande. La pression sur eux est très, très grande. Si jamais vous avez des citoyens au pouvoir, vous avez potentiellement une démocratie petit à petit beaucoup plus réactive, beaucoup plus rapide, beaucoup plus inventive et moins sujette aux pressions des lobbies.
Vous vous présentez quand, Grégoire?
Moi je suis.
Vous le montez quand, ce mouvement?
Moi, je suis un romancier. Moi, j'écris dans ma chambre.
On va quitter cet hémicycle avant que vous soyez comme ça en haut de l'estrade, là, président du Parlement. Et on va se retrouver dans un endroit très protocolaire ici, où on n'a pas accès d'habitude. C'est un endroit là aussi qui fait partie des coulisses du Parlement, puisqu'on va aller dans l'entrée protocolaire où passent finalement tous les chefs d'État, tous les invités de prestige qui viennent voir les députés ou la Commission ou le Parlement.
Hop, avec le petit strapontin.
Ou un strapontin. Ah oui,
voilà,
un
petit strapontin.
Dans l'ascenseur.
Ah ouais, pour les gens qui ont mal aux genoux. Ground
floor. En fait, ici à Bruxelles, le Parlement se réunit seulement pour les commissions. Les plénières, c'est toujours à Strasbourg, une fois par mois. Ouais. Ici, c'est plutôt des salles plus petites pour les commissions parlementaires.
Voilà.
C'est là que les chefs d'État descendent, tu vois, et puis qu'ils sont attendus par les journalistes. Ils font leurs petits points.
On est sur un tapis bleu.
Eh oui, tapis bleu, c'est mieux que tapis rouge. Hein.
Un grand tapis bleu avec des cordons bleus qui entourent comme ça cet espace.
Là, tu as l'entrée vers le Spinelli, et qui est un des deux bâtiments. Et ici, on est dans le Paul Henri Spaak. Les bâtiments portent des noms de grands députés ou de fondateurs. Hein.
Alors, vous évoquez plein de choses hein, qu'on a connues, et notamment une action terroriste qui va permettre à l'un de vos personnages de devenir un héros, une héroïne. C'est une femme. Cette action terroriste très troublante, car on pense évidemment à ces attaques du 22 mars. Ici même, hein, il y a presque un an maintenant, la station de métro qui dessert le Parlement européen, où nous sommes là, a été ciblée. On y est passé tout à l'heure, et vous faites une démonstration. Vous dites que la violence est trop au centre d'intérêt des médias. Vous écrivez « Tant que les médias agiront ainsi, le terrorisme sera efficace ».
Oui, il y a une récompense médiatique à tout homme qui mord un chien. Hein, vous savez, on apprend ça dans les écoles. Donc il y a une récompense médiatique à la violence, c'est vrai, et le terrorisme, sans ça, évidemment, ne fonctionnerait pas. On ne peut pas demander non plus aux médias de taire, bien sûr, les événements. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a un rapport direct entre l'intérêt morbide que nous pouvons avoir pour ce qui va mal... le pessimisme ambiant, c'est sûr. Et donc les médias ont leur rôle à jouer, ils doivent être toujours ouverts, toujours libres. La démocratie et les médias sont quelque chose d'ouvert et de vulnérable. N'importe qui, avec des mauvaises intentions, peut l'utiliser à de mauvaises fins. La violence et le terrorisme utilisent les médias à cette mauvaise fin-là. On n'en peut rien, on ne peut rien y changer, mais on peut en être conscient au moins, pour essayer de rentrer le moins possible dans ce jeu-là.
On va terminer, Grégoire Paulet, avec le photocall, comme on dit, c'est pas très francophone, mais en tout cas, c'est un espace de photographie avec estrade et puis deux drapeaux européens, un fond bleu, évidemment, avec la représentation de l'hémicycle et ce tapis bleu, une nouvelle fois. Notre photographe, il n'y en a qu'un. C'est Jean-Philippe Béret, notre collaborateur. Merci beaucoup, Grégoire Paulet, entouré par ces drapeaux européens. On va terminer cette émission. Merci à vous. Tous viennent de paraître dans la collection Blanche chez Gallimard. C'est un grand livre parfaitement d'actualité. Merci Grégoire.
Merci beaucoup Emmanuel.
La librairie francophone, Emmanuel Guérad.
Et avant de conclure, coup de projecteur sur un artiste francophone avec la chanteuse française Bessa.
Quand le rouge se noie tout au fond de ses yeux, teinté de gris, teinté de noir, mais jamais plus teinté de bleu, le ciel se voile au-dessus ce soir. Quand l'air se déchaîne jusqu'au bout de mes ailes, l'orage pose ses dernières forces pour que l'envol redevienne frêle. Et le vent souffle si fort ce soir. Et de l'homme à l'animal, il va et il vient, et le tout s'installe dans ses mains, dans ses gestes, les mouvements sont pâles, il en crève et je reste là. Et danse autour de moi, elle m'accompagne, étant l'escorte qui sera mienne. Ils me désarment et puis me gagnent, et je leur cède à cœur ouvert. Les larmes coulent dans les flammes et les éteignent. Après les larmes vient le silence. Il dit qu'il reste, il dit qu'il m'aime, et je l'accueille à bras ouverts. Et de l'homme à l'animal, il va et il vient. L'orage s'installe dans ses mains, dans ses gestes, les mouvements sont pâles, il étouffe et je reste là à le voir manquer d'air. Et de l'homme à l'animal, il va.
Et ça, de l'homme à l'animal, à retrouver en intégralité sur Internet. Et c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook et Twitter pour communiquer avec vous. À la réalisation, Hélène Bizio avec Pierre De Wolk et Thierry Mazzi, Djoubaka à la prog musicale. À la rédaction, Jean-Philippe Véré avec René Mikils et Valérie Elputissier à Bruxelles, Christophe Magère et Marie-Louise Beau en France, Martine Béguin-Follet et Annick Chouin en Suisse, Jacqueline Castonguet et Sylvie Julien au Canada. La semaine prochaine, autre émission spéciale dans le cadre de la Journée internationale de la francophonie avec notamment Michaël Jean, secrétaire général de la francophonie. Et de nombreuses surprises de toutes origines. Un son du monde, très grand format qui vous fera voyager. Bon week-end et bonne semaine. À bientôt. Salut.